En ce 15 août, c'est la fête, évidemment, de l'Assomption. C'est une très grande fête dans toute l'Église d'Orient comme dans l'Église d'Occident, où l'on célèbre cet étonnant phénomène de la montée au ciel de Marie, corps et âme, déjà ressuscité. Ça n'est pas facile à accepter pour beaucoup de gens, et je comprends. Ça n'a pas toujours été facile à travers l'histoire de l'Église. Quelques personnes sérieuses s'y étant opposées, y compris, il y a quelques siècles, les jansénistes. Je ne veux pas me ranger du côté des jansénistes, loin de là, car c'est un mystère que, personnellement, j'ai eu un peu de problème à accepter, et je l'ai accepté. Et je l'ai accepté avec grande joie, car il me révèle, au sujet de Marie, les choses les plus importantes, et je considère cette fête de l'Assomption comme étant, je pense, la plus grande fête mariale de l'année. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je désire vous parler tout d'abord d'un grand dévot à Marie, qui a été béatifié tout récemment, le 24 avril 1994, à Rome. C'est un Zaïrois, un laïc, très peu connu évidemment, le bienheureux Isidore Bakanja, B-A-K-A-N-J-A. On l'appellera peut-être plus facilement Isidore, mais je préfère lui donner son nom de famille qui n'est pas si compliqué. Isidore Bakanja est né au Zaïre vers 1885. Je dis bien vers 1885, car les Africains souvent ne tenaient aucun compte du moment de leur naissance. J'en ai eu l'expérience en Afrique plusieurs fois, les gens ne sachant pas à quel moment ils étaient nés vraiment, même pas la date. Et on dit que vers 1905, toujours vers, n'est-ce pas, il se fit embaucher comme simple aide-maçon. C'est donc un ouvrier, un aide-maçon. Il avait 20 ans, avec un contrat de 3 ans. C'était dans une entreprise de travaux publics, administrée par des Belges, à Mbandaka. Et il a suivi en même temps le catéchuménat chez des pères trappistes. Ce sont des trappistes qui l'ont évangélisé. Il a été baptisé à 21 ans, le 6 mai 1906, et le jour même, écoutez bien ça, il a reçu le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel. Et c'est très important, il a reçu le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, qu'il portera toujours. Je présume qu'il y a peut-être quelques personnes qui sont un peu stupéfaits que je leur parle d'un scapulaire. On a un peu de mépris pour ça, mais ça n'empêche pas que c'est un signe d'appartenance, de foi et d'amour à l'égard de Marie, pour ceux qui le portent avec intelligence, évidemment. Isidore Bakanja a été confirmé la même année. Il a fait sa première communion en 1908 à 23 ans. Il se montrait très assidu à son travail. C'était un jeune homme intègre, vraiment très consciencieux, un jeune Africain plein d'idéal. C'était aussi un chrétien très engagé. Il était vraiment convaincu de cette nouvelle foi qu'il avait atteint en plein cœur. Tout le monde était frappé par sa sagesse. Et beaucoup qui voulaient se convertir le choisissaient d'ailleurs comme catéchiste pour apprendre la religion catholique. Et Isidore Bakanja est prévenu de la haine que lui portent certains des dirigeants de la société anonyme belge, la SAB, contre les chrétiens. C'était des Belges incroyants qui ne souffraient pas facilement que des Africains deviennent catholiques. Et le gérant de la SAB, de la société anonyme belge, était un monsieur Van Cauter, C-A-U-T-E-R. Il tolérait absolument pas l'influence religieuse de Bakanja, d'Isidore Bakanja, sur les autres travailleurs de l'entreprise, et surtout, il n'aimait pas les signes extérieurs de sa vie chrétienne, et surtout ce scapulaire qu'il portait au cou. Son aversion était d'autant plus forte que le jeune Isidore était respectueux, était irréprochable, il était très courageux, puis il se laissait pas intimider. Il faisait marque et état de ses opinions religieuses très calmement. Et c'est terrible ce qui lui est arrivé. Une première fois, en février 1909, ce monsieur Van Cotter a ordonné de punir Isidore Bakanja de quoi? De 25 coups de chicotte. Un fouet terrible, un bout de bois, parce qu'il avait refusé de retirer son scapulaire, et Isidore a continué à mener sa vie normale de travailleur, de chrétien, de catéchiste, et là, ce monsieur Van Cotter ne supportait plus son influence. N'oublie pas qu'il était le dirigeant, le gérant de la Société anonyme belge. Un peu plus tard, pour la même raison, Van Cotter ordonne de mettre à terre Isidore, de le jeter par terre. Il va lui-même chercher cette chicotte en peau d'éléphant. Elle était faite de peau d'éléphant, c'est un fouet de cuir, quoi, avec des objets attachés. Il va lui-même chercher donc cette chicotte qui portait deux clous, et il le fait battre, il le bat lui-même jusqu'au sang. Les témoins ont parlé d'au moins 200 coups. Isidore Bakanja a dû être porté dans ce qui servait de prison, et ce monsieur Van Cotter lui a attaché les pieds dans les deux anneaux métalliques fermés avec un cadenas et reliés à un énorme poids, imaginez. Et le corps d'Isidore n'était plus qu'une plaie purulente. Et à la fin de juillet, eh bien, un père trappiste lui a donné les derniers sacrements. C'est en 1909. Isidore a pu exprimer le pardon qu'il accordait généreusement à son meurtrier. Il a même assuré qu'il prierait beaucoup pour lui au ciel. Et le 15 août, le jour de l'Assomption, 1909, physiquement épuisé par 6 mois de souffrance intolérable, le bienheureux Isidore Bakanja est mort. Tous les témoins au Zaïre s'accordent pour dire que c'est en haine des chrétiens et parce qu'Isidore était chrétien et amoureux de la Vierge que Van Cotter l'a fait flageller à mort. On peut lire cela dans l'Osservatore Romano du 26 avril 1994 en page 3, et ça a été reproduit par Mgr André Cimichella dans ses petits livres qu'il publie chaque année, Bienheureux et Bienheureuse, et celui-là, c'est de l'année 1994. Je voulais vous citer ce détail pour qu'on puisse bien comprendre qu'un simple jeune laïc dans la vingtaine puisse être si amoureux de Marie qu'il puisse aller jusqu'à la mort et au sacrifice de toute sa vie et endurer un martyre épouvantable en plein XXe siècle. Lui qui a été béatifié l'an dernier, en 1994. Ce jour donc de l'Assomption, je voulais porter cet homme comme grand témoin récent de la ferveur qu'on peut avoir à l'égard de Marie. Marie a été élevée au ciel, réjouissons-nous, hein? C'est la liturgie qui chante ça aujourd'hui. Marie a été élevée au ciel, réjouissons-nous. C'est un énoncé fort simple et joyeux du mystère de l'Assomption. C'est l'aboutissement d'une lente élaboration de la croyance de l'Église. L'Église, la grande Église, comprenant l'Église orientale aussi bien que l'Église occidentale, et aussi, dans l'Église occidentale, les branches comme l'Église anglicane, et même l'Église luthérienne de plus en plus, et bien d'autres églises qui acceptent l'Assomption comme pas nécessairement un dogme de foi qui a été énoncé en 1950 par le pape Pie XII,
mais comme une vérité qu'ils acceptent. C'est fondé, et que croyez-moi, sur l'Écriture sainte, et particulièrement sur la tradition. Mais je me souviens quand ce dogme a été promulgué en 1950, la presse en avait fait l'en-tête de son journal. Et mon père, qui n'était pas croyant vraiment, mais se disait quand même catholique. Et il est mort très catholique. En 1950, il était retraité, lui qui était né en 1881. Il lisait le journal bien calmement et m'a montré l'en-tête alors que j'arrivais, puis il m'a dit « Oh, regarde, Raymond, pauvre toi, regarde ce que ton Pacelli, il disait toujours ton Pacelli au lieu de Pie XII, il n'était pas méchant, hein. Il disait ça avec un petit sourire un peu moqueur, mais sans méchanceté. Il dit « Regarde ce que ton Pacelli t'oblige à croire. » Et j'avoue que ça m'a un peu ébranlé, mais ça m'a permis d'approfondir ma foi pour la conformer à celle que l'Église me demandait d'avoir. Et c'est dans une conscience chrétienne commune qu'on entend par le mot « Assomption » le fait de la résurrection de la Sainte Vierge, son entrée triomphante, en corps et en âme, dans le ciel. L'enseignement traditionnel nous enseigne aussi, ou inclut depuis, je dirais, habituellement dans ce mystère, la mort de Marie, donc, et sa présence glorieuse au paradis. Tout ça est compris dans le mystère de l'Assomption. Sa mort, en somme sa résurrection, son Assomption, c'est-à-dire sa montée au ciel, et ce qu'on appelle aujourd'hui le couronnement de Marie, c'est-à-dire la reconnaissance par l'Église triomphante, c'est-à-dire l'Église du ciel, tous les saints qui sont au ciel, sont innombrables, la reconnaissance en Marie de sa royauté qui lui vient, évidemment, de la maternité divine, c'est-à-dire qu'elle a mis au monde Dieu. Elle n'est pas déesse, je tiens à souligner. Ce n'est pas du tout dans la foi des chrétiens de la considérer comme une déesse. Quand on dit la mère de Dieu, c'est comme on dit de quelqu'un qu'elle est la mère du président ou le père du président. Ils sont la mère du président, le père du président. Mais c'est pas eux qui ont fait qu'il soit président. Pas plus qu'elle, elle a fait que son fils soit Dieu. Il est Dieu de toute éternité. Elle a donné la chair, son corps, son sang. Il y a un très beau texte hier de Jean-Paul Sartre à ce sujet qui est magnifique, que je vous promets toujours de vous lire. Je vous le lirai un bon jour. Historiquement, il faut reconnaître que c'est un mystère assez impénétrable. Il faut l'élucider dans la foi. Et il faut s'appuyer sur l'enseignement traditionnel, lequel a des fondements, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur l'Écriture sainte. Et dans l'Écriture sainte, il n'y a pas d'attestation explicite de l'Assomption. Bon, d'accord, je me range du côté des protestants qui disent que ça n'a pas de sens sur le plan de l'exégèse concrète, directe, mais ça a du sens. Car il y a une prédiction qui est faite par Dieu de la victoire totale de la femme sur le serpent. On trouve ça dans la Genèse, au chapitre 3, verset 15. C'est le triomphe sur les trois malédictions. Hein. C'est toujours interprété comme ça. Le triomphe sur la mort qui corrompt. La mort qui est absorbée par la victoire, comme dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens. Hein. Mort, où est ta victoire? Et Marie doit donc échapper à ce qui est prononcé dans la Genèse, au chapitre 3, verset 19, « Tu retourneras en poussière. Hein? » On nous disait ça autrefois le mercredi des Cendres. Je détestais pas ça. « Tu retourneras en poussière. » L'Annonciation, d'autre part, dans saint Luc, au chapitre 1er, Marie est déclarée pleine de grâce. Hein? Si elle est pleine de grâce, il faut bien qu'elle le soit, et qu'elle obtienne même cette grâce extraordinaire d'une résurrection anticipée et cette montée au ciel. Il y a aussi la salutation d'Élisabeth, toujours dans Luc, cette fois-ci toujours au chapitre 1er, mais vers la fin, au verset 42. « Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et béni est le fruit de votre sein. » Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Ce sont des privilèges qui sont énoncés par l'ange. Et sa cousine Élisabeth aussi énonce cette vérité fondamentale. Hein? Bénie entre toutes les femmes. Béni est le fruit de votre sein. Ça révèle que la mère du Sauveur n'a jamais été assujettie à cette malédiction que l'on trouve dans le livre de la Genèse, mais qu'elle est toujours associée à cette grande bénédiction dont jouit son divin fils Jésus de Nazareth. Il y a aussi, dans l'Apocalypse, au chapitre 12, une description apocalyptique. Là. Vous savez, vous vous souvenez peut-être de la lutte de la femme et de son fils contre le dragon. Là. Tout ça, pour les exégètes, pour les spécialistes, ce sont des indications manifestes que l'Assomption est exprimée, en particulier dans l'Apocalypse, par les versets 14 à 16. C'est mieux de vous référer à des livres d'exégèse, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Dans la tradition, on ne sait pas à quel âge la Sainte Vierge est décédée et montée au ciel. Sainte Brigitte, dans des révélations, nous dit qu'elle avait 63 ans. Bon, mais passons. Marie est-elle vraiment morte? On s'est posé la question, bien si elle s'était simplement endormie, la dormition, hein, pour se réveiller dans une vie glorieuse. La tradition n'est pas unanime sur ce point-là. Alors, en Occident, il y a Saint Éphrem, le fameux Saint Éphrem, qui a cru à la mort. Lui qui est mort, Saint Éphrem, en 373. Il a cru en la mort de la Vierge. Saint Épiphane, par contre, s'est posé la question, ne l'a pas résolu. Lui, il est mort quelques années plus tard, 40 ans plus tard, en l'an 403. Il y a aussi un prêtre de Jérusalem à la même époque qui a opté pour l'immortalité. Mais en Occident, Saint Jérôme, Saint Augustin, Saint Paulin de Nol, dont je vous ai déjà parlé, ce fameux Saint Paulin de Nol qui était si riche et qui a tout sacrifié, mais tous trois, qui ont vécu dans la première moitié du 5e siècle, ont cru à la mort de Marie. Donc, en ce qui concerne l'Assomption elle-même, il faut avouer que durant les 5 premiers siècles, on ne relève aucun témoignage explicite. Là. C'est pas clair, clair, clair. Il y a bien des écrits dans des textes apocryphes, mais ça, c'est tout à fait discutable. Des textes qui ne sont pas vraiment des textes évangéliques et qui tiennent plutôt de la légende dorée. Alors, dans les premiers siècles, on se rend compte que, d'ailleurs, plusieurs dogmes qui ont été énoncés pendant les 5 premiers siècles ont eu au tout début une vie un peu latente, mais une vie quand même. Et c'est très important. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas. C'est que c'était latent, c'est-à-dire pas sous-jacent, mais ça progressait lentement, disons. En Orient, les plus anciens témoins, donc, de la croyance à l'Assomption glorieuse de Marie, c'est ce prêtre Timothée dont je vous ai parlé, puis Saint Épiphane. Il y a eu Saint Modeste de Jérusalem, qui est mort en 634, qui est le premier théologien qui présente explicitement la doctrine catholique de l'Assomption, puis il y a Saint Germain de Constantinople, qui est un docteur absolument immense, n'est-ce pas, qui a parlé beaucoup, beaucoup de Marie dans sa gloire. Il affirme que la Sainte Vierge est au ciel aussi bien par son corps ressuscité et glorifié que par son âme. Il est mort en 733. Donc on a de vieilles choses, et aussi Saint Jean Damascène, sur lequel on revient la plupart du temps quand on parle de l'Assomption, lui est mort en 749. Et il estimait que le martyr de Marie, contemplant son fils crucifié, que ce martyr appelait nécessairement la glorieuse contemplation au ciel avec ses yeux de chair, mais ressuscité, pour voir encore son fils au ciel. Il propose donc une espèce de parallélisme des mystères qui concernent Jésus et qui concernent Marie. Bon, en Occident, maintenant, revenons en Occident, le premier témoin, c'est Saint Grégoire de Tours, qui est mort en 594, et on peut dire que jusqu'au 9e, 10e siècle, il est le seul a patronné en Occident le privilège de l'Assomption. En dehors de lui, mais la tradition orientale était ignorée, même en Occident, jusqu'au IXe siècle. Alors, petit à petit, on retrouve pas grand-chose, si ce n'est que chez Saint Bernard. C'est pas vraiment une affirmation explicite de l'Assomption, mais il ne le condamne pas. Et dans ses 5 sermons sur le mystère de l'Assomption, il semble approuver l'Assomption. Il ne condamne pas, en tous les cas, l'Assomption. Il y a eu Saint Thomas, le grand Saint Thomas d'Aquin, qui est mort en 1274, et le grand Saint Bonaventure, qui est mort la même année. Ils enseignent tous les deux l'Assomption. Par leur suite, les grands scolastiques font de même. Alors, du XVIe siècle, au milieu du siècle dernier, au Concile Vatican, on qualifie de téméraires, finalement, ceux qui nieraient ou mettraient même en doute le privilège de l'Assomption pour la Vierge Marie. Mais au XVIIe siècle, je vous l'ai dit tout à l'heure, les jansénistes le combattent. Ils veulent s'attacher uniquement à l'Écriture, ils veulent être très stricts, un peu trop sévères. Mais quand on analyse tout ça, on s'aperçoit que le privilège d'Assomption, là, retenez bien ça, c'est le couronnement de tous les privilèges mariaux. Ça ne fait pas de Marie une déesse, je tiens à le répéter. C'est la créature de Dieu la plus belle, la plus merveilleuse, et n'essayons pas de penser qu'elle est inhumaine. Marie est une petite fille juive qui a dit oui, très jeune, à l'ange qui lui apparaît pour lui demander d'être la mère du Messie. Son oui est un oui constant depuis sa plus tendre enfance. Elle a toujours dit oui à ce qui était bon, ce qui était, comme on dit, le plus parfait. Elle a été privilégiée. Elle a su éviter, bien qu'elle jouissait du libre arbitre, de tout péché. Jamais elle n'a péché. Elle a été gardée d'une façon miraculeuse au fond, pour devenir la mère de Jésus, pour être sa mère aussi par l'éducation qu'il a fallu qu'elle lui donne, car il fallait l'élever, Jésus. C'était un petit garçon, et elle a su le faire de façon parfaite. Les privilèges dont elle a joui prennent leur source, évidemment, dans les Écritures, dans les traditions. Et la doctrine de l'Assomption s'est donc élaborée lentement par les travaux des théologiens, puis leurs conclusions ont été ratifiées par l'Église enseignante, hein, notamment dans les textes liturgiques qui sont très anciens souvent. L'opinion communément reçue dans l'Église, c'est que, comme je vous l'ai dit, la Sainte Vierge est passée par la mort, mais quant à l'Assomption elle-même, les théologiens en trouvent la confirmation dans des passages de l'Écriture et qui sont authentiques et qui sont reconnus comme tels par toute l'Église. Dans son commentaire de la salutation angélique là, qu'on trouve dans Saint Luc, Saint Thomas d'Aquin enseigne que Marie fut exempte de la malédiction dont j'ai parlé tout à l'heure, tu retourneras en poussière. Car, dit-il, elle a été élevée encore au ciel. Elle n'a même pas eu cette malédiction corporelle. Nous savons que c'est très rapide, la malédiction corporelle. Et certains saints sont préservés, un peu à l'exemple de Marie, et leur corps est miraculeusement conservé. Je vous ai déjà parlé de certains saints dont les corps sont conservés. Il m'arrivera sans doute de vous en parler de nouveau. Parmi les théologiens, là, il y a un argument très en faveur, c'est l'association étroite, comme je vous ai dit, de la mère et du fils dans l'œuvre du salut, dans l'œuvre de cette libération de l'humanité, dans l'œuvre de la cette espèce de source fantastique de bonheur qui habite ceux qui adhèrent au message de Jésus. Ce sont les idées qui sont exposées d'ailleurs dans les encycliques des papes depuis Léon XIII et la doctrine qui a été soutenu autrefois par Saint Jean Damascène, dont je vous ai parlé tout à l'heure, conduit
à prendre en considération. Cette union intime, physique et morale, je dis bien physique et morale, de la mère et du fils, elle a donné sa chair et son sang au Fils éternel de Dieu. Et ces privilèges de l'incorruptibilité, de la résurrection anticipée et de l'assomption semblent pas requis comme une convenance. Pas du tout, c'est comme une véritable exigence, et j'insiste là-dessus. Ça devient une exigence. C'est très différent qu'une convenance. Et le dogme promulgué par Pie XII, je le comprends maintenant de plus en plus, c'est une exigence. Oh, on dira que je suis de droite peut-être, mais je me soumets avec joie à ce dogme difficile. Saint Jean Damascène, d'ailleurs, en a parlé à plusieurs reprises comme étant une nécessité. Et cette mort fut un passage effroyable pour le Christ, mais très doux pour Marie et pour nous. Et ça, c'est grâce au mérite de la mort du Christ qui a tracé la voie. Je voudrais vous lire quelques passages de la première lecture qui sera faite aujourd'hui dans toutes les églises, qui est faite dans toutes les églises du monde catholique. La lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. On dit toujours que c'est difficile à comprendre, mais aujourd'hui, c'est pas difficile à comprendre. Il est dit aujourd'hui, un signe grandiose apparut dans le ciel. Le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, la femme mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les menant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix puissante qui proclamait, « Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu, et le pouvoir de son Christ. » C'est une façon de dire, presque surréaliste. Ce sont des textes qui devaient plaire aux grands surréalistes des années 20 et des années 30, comme André Breton et d'autres. C'est très beau et c'est très riche. Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds. C'est superbe. Et on voit qu'elle enfante ce fils, la femme, mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les menant avec un sceptre de fer. Un sceptre de fer, c'est un sceptre très pauvre, c'est pas un sceptre en or. C'est le sceptre de la pauvreté, mais c'est un sceptre dur, exigeant. Et souvent, on blâme les exigences de l'Église comme étant des exigences inhumaines. Mais ce sont des exigences dépourvues de condamnation véritable. C'est beaucoup plus des buts qui nous sont proposés pour que nous puissions imiter Jésus et Marie dans ce qu'ils ont de plus grand et de plus noble et de plus pur, parce que ce sont les êtres qui ont été habités par le plus grand de tous les bonheurs. C'est la conformité totale à cette volonté délicieuse de Dieu notre Père. Une volonté qui est pleine de miséricorde et d'amour, pleine de tendresse, comme celle du Père dans la parabole de l'enfant prodigue. Au sujet du dogme de l'Assomption, on a souvent objecté le silence de l'Écriture, comme je vous ai dit tout à l'heure, et la tradition primitive. Le silence de la tradition primitive. Ce silence, je vous le rappelle, ce n'est pas une négation. Je le rappelle parce que c'est très important. Depuis la définition du dogme de l'Immaculée Conception, vers 1854, la possibilité de définir l'Assomption est apparue, à ce moment-là, comme un corollaire, c'est-à-dire comme une conséquence, si vous voulez, de ce privilège de l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, c'est que Marie, dès sa conception dans le sein d'Anne, était préservée de toute tâche, de toute conséquence des péchés précédents de ses ancêtres,
et de ce qu'on appelle le péché originel. Il faut lire les ouvrages les plus récents sur la question du péché originel pour bien comprendre. Je ne m'étendrai pas sur la question aujourd'hui. La théologie, le seul bon sens, affirme que là donc où il n'y a pas eu de tâche originelle, il ne doit pas y avoir non plus les conséquences de cette tâche. Et d'ailleurs, les docteurs des grandes écoles de théologie, tant catholiques qu'orthodoxes, considèrent le fait surnaturel de l'assomption du corps de Marie au ciel comme contenu tout naturellement, tant dans la tradition de l'Église depuis le début, que dans les textes que j'ai évoqués plus haut, ce soit ceux de la Genèse ou de l'Évangile ou de l'Apocalypse. La question de la possibilité de définir ce dogme, ça a été posé dès le Concile Vatican I, au milieu du siècle dernier. 113 pères du Concile, il y en avait beaucoup moins à l'époque, des pères du Concile. C'était pas des grands conciles comme le dernier qu'on a eu, avec plus de 2000 pères du Concile. Alors donc, 113 pères ont demandé la définition de ce dogme. La mise au point était encore loin d'être réalisée au début du 19e siècle. Et au début du 20e siècle, en 1908, Pie X affirmait que de nombreuses études, des études très sérieuses étaient encore nécessaires. C'est Saint Pie X, dont on va célébrer la fête très bientôt, dans quelques jours. Et le 14 décembre 1944, Pie XII recevait le premier des deux volumes de pétitions qui étaient formulés dans l'Église en vue de la définition de ce dogme. Et Pie XII, donc, le 1er mai 1946, a adressé aux évêques du monde entier une lettre pour leur demander leur opinion. Ça s'est fait sérieusement, hein. Ce n'est pas simplement Pie XII qui a décidé ça de lui-même, comme je l'ai déjà entendu dire assez cavalièrement. Le pape a prié et sollicité les prières de tous pour que Dieu l'éclaire. Beaucoup estimaient que le temps actuel postulait cette proclamation, que c'était une bonne chose. Et cela notamment en raison de différents faits. Il y avait l'intervention de plus en plus manifeste de Marie dans le monde. Il y avait aussi les assauts d'un esprit matérialiste qui considérait le corps comme tout et rien en même temps, où on pouvait tuer de façon fantastique des millions de gens comme à Auschwitz, dont je vous ai parlé hier, à l'occasion de la grande fête de ce grand dévot de Marie, qui est Saint-Maximilien Kolbe, ce Polonais franciscain conventuel. Et le matérialisme pouvait être en partie repoussé par un dogme qui apporterait un démenti solennel sur l'importance du corps comme étant un miracle fantastique que Dieu crée à chaque fois qu'un être humain est créé. Car qui peut faire des yeux, qui peut faire un cerveau, qui peut faire des oreilles, qui peut faire un être humain fait de la même matière que le sol, ensemble constitué extraordinairement? Les parents le sentent quand ils mettent un enfant au monde, que c'est un miracle qui leur est donné, qui plonge dans leurs bras et qui serre contre leur cœur. C'est fantastique, un être humain. Et ce corps est sacré. Ce corps est fait pour adorer, pour vénérer Dieu, pour engendrer d'autres corps à la vie éternelle. Et le corps de Marie est déjà plongé dans l'éternité. Il est pour nous le rappel fondamental de la grandeur de notre existence, de la puissance qui nous est donnée. Nous sommes puissants de ce que Dieu nous donne, et nous sommes impuissants de ce que nous sommes en nous-mêmes, poussière, petite poussière. Je me souviens de cette parole de Claude Lévi-Strauss, ce grand athée de ce siècle, au regard si doux, à cette voix si tendre, cet homme si gentil. J'étais en studio avec lui, et après une émission, je lui avais dit: vous ne nous avez pas parlé des raisons que vous avez de ne pas croire. J'aurais aimé vous entendre expliquer doucement, comme vous savez le faire si bien, afin que nous puissions, nous croyants, mieux sympathiser à celui que vous êtes. Il a eu un regard très généreux à mon égard, puis il m'a dit, « Oh, je ne voudrais pas faire une telle chose, de crainte d'entraîner à ma suite des gens qui y croient. Car la foi semble vous donner à vous une telle joie que je ne voudrais pas vous l'enlever. » Il dit, « Monsieur Beaugrand-Champagne, regardez dans le coin de ce studio, vous voyez ce petit tas de poussière? Eh bien, je considère qu'il n'y a pas de différence entre ce petit tas de poussière et nous. » Je suis resté tellement épouvanté que je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire, « Oui, mais notre poussière est organisée, elle est admirable, elle est merveilleuse, et seul Dieu a pu penser à une telle chose. » Et il m'a dit, « C'est votre point de vue. » J'avais l'impression qu'il me parlait du fond d'un gouffre. Or, aujourd'hui, en cette fête de l'Assomption, Dieu veut, par l'Esprit-Saint, nous rappeler, lui qui règne sur l'Église, l'Esprit-Saint, qui l'alimente, qui est à la source des textes que l'on choisit dans la liturgie, ces beaux textes de cette liturgie d'aujourd'hui, qui nous chantent la gloire du corps de Marie, corps ressuscité. Il y a aussi un autre fait qui nous demande d'accepter ce dogme, c'est les souffrances subies universellement. Et une affirmation comme celle du dogme de l'Assomption nous permet d'adoucir ces souffrances, parce qu'en contemplant la gloire de Marie, on sait que c'est la gloire qui nous attend. Il y a aussi le déluge de perversion, auquel une femme, une mère comme Marie, s'oppose doucement, rayonnante de bonté et de pureté. Cette vérité fondamentale de la grandeur d'une mère. Quand je vois la mère de mon petit-fils, la tendresse qu'elle a pour lui, la générosité dont elle l'entoure, le souci constant qu'elle a de son bien-être, de son éducation. C'est tellement beau de voir ma belle-fille Ginette prendre soin de mon petit-fils Pascal comme ça, que j'y vois l'image de Marie, l'image du cœur immense de notre mère, Marie. Vous savez que dans l'art, on a su reproduire l'Assomption très tôt. Il y a des œuvres très importantes. Dès le IVe siècle, dès le début du IVe siècle, il y a un sarcophage qui est conservé en l'église Santa Engracia, à Saragosse, en Espagne. L'Assomption y est figurée par le geste, c'est très beau, d'une main qui vient du ciel et qui saisit le poignet de la Vierge Marie et pour l'élever dans les cieux. Il y a un tissu aussi, un tissu broché qui est conservé à Sens et qui date en France là, du 8e siècle. Il y a aussi un très bel ivoire à l'abbaye de Saint-Gall en Suisse, la grande abbaye de Saint-Gall. C'est de la même époque, à peu près du 8e siècle. Il y a aussi cette belle fresque de Saint-Clément, la belle basilique de Saint-Clément à Rome, une fresque qui date du 9e siècle. Il y a des miniatures qui apparaissent au 10e siècle. Et ça n'arrête plus après ça. Et dans les époques qui suivent, là, les œuvres artistiques sont innombrables. Et parmi elles, il me semble, brille d'un éclat merveilleux le couronnement de la Vierge Marie par Frangelico. J'aimerais maintenant vous lire un texte sur Marie. Un texte de Françoise Dolto. Françoise Dolto, que j'ai eu le bonheur de rencontrer et d'interviewer à la télévision de Radio-Canada, médecin, psychanalyste spécialiste d'enfants, qui est membre de l'école freudienne de Paris, qui est une des premières psychanalystes à avoir abordé de front, n'est-ce pas, la question de la relation entre la psychanalyse et l'Évangile. Elle a écrit de nombreux ouvrages et j'aime beaucoup la lire. Ici, sur Marie, c'est de toute beauté. En ce grand jour de l'Assomption, je crois que c'est tout à fait convenable. Marie était éveillée quand elle a reçu la révélation de sa fécondité,
C'est important car Joseph, lui, était endormi quand il a reçu la révélation de ce qu'il allait devoir assumer. Marie était éveillée et consciente. Elle n'était pas endormie. Elle était en attente de Dieu au nom de l'humanité. Et cela annonce la joie qui va éclater dans le Magnificat qu'elle chante à Élisabeth, une autre femme. Ce chant va bien au-delà de l'intelligence humaine. C'est l'expression d'une intense jubilation, un poème d'amour, de la vie, un poème d'amour de la vie inspiré par l'Esprit, qui a pris corps femme en Marie. Ce poème est miraculeux dans sa nouveauté et dans son inépuisable beauté. Nous n'avons cependant toujours pas compris et mis en pratique le renversement des valeurs annoncées par ce chant. Nous accumulons des biens, nous gardons nos possessions, nous écrasons le voisin en lui imposant notre volonté. C'est long, mais peut-être que les derniers temps seront ces jours où nous comprendrons enfin qu'il nous faut vivre à l'unisson de l'Esprit-Saint, dans les pulsions passives, pour tout recevoir de Dieu comme Marie à chaque instant, et que tout soit fait en nous et par nous en apparence, selon l'Esprit, le seul actant. C'est très beau ce texte, elle dit que l'Esprit-Saint, c'est le seul qui agit vraiment. Et comme je vous ai dit bien des fois, si vous invoquez l'Esprit-Saint en disant « Esprit-Saint, prends-moi », comme Marie a été prise par l'Esprit-Saint, c'est ainsi qu'elle a enfanté Jésus, et que toute sa gloire vient de cette maternité divine et de sa conformité à la volonté du Père. Ainsi, si nous disons aussi « Esprit-Saint, prends-moi », nous engendrerons Jésus qui vivra en nous. Et ainsi nous le porterons comme elle l'a porté, et nous le donnerons. Je pense en particulier à une lecture que j'ai faite ces jours-ci, dans l'écho de Medjugorje. C'est l'écho de Marie, reine de la paix, c'est le numéro 120, numéro de juin 95. Il y a là le message de Marie à Medjugorje. Si vous ne croyez pas aux apparitions, c'est libre à vous, ce n'est pas un dogme. Moi, personnellement, j'ai fait des émissions sur Medjugorje, j'ai présenté à la télévision ce film fait par un ami. Et c'était intitulé « Et si c'était vrai ?» C'est un film de François Bray, père de 9 enfants, dont une carmélite. Un type très sympathique, qui est un amateur du Québec, qui aime beaucoup notre pays. Il vit à Tours. Il avait fait ce film que j'ai présenté en 80-82, c'est passé à second regard, et il m'avait donné des extraits de son film pour que je les mette en rencontre quand j'avais interviewé René Laurentin, et on voyait les voyants, tous ensemble, ils étaient nombreux au début, lever les yeux ensemble, et les gestes étaient posés avec une précision si impeccable qu'il était difficile de ne pas accepter qu'ils voyaient vraiment quelqu'un. Et voici donc le message du 25 avril qui est très beau. Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à l'amour. Je répète. Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à l'amour. Petits enfants, sans amour vous ne pouvez vivre ni avec Dieu ni avec les frères. C'est pourquoi je vous invite tous à ouvrir vos cœurs à l'amour de Dieu, qui est tellement grand et ouvert à chacun de vous. Par amour de l'homme, Dieu m'envoya parmi vous pour vous montrer le chemin du salut, le chemin de l'amour. Si vous n'aimez pas Dieu d'abord, vous ne pourrez pas aimer votre prochain, ni celui que vous haïssez. C'est pourquoi, petits enfants, priez, et à travers la prière, vous découvrirez l'amour. Si vous n'aimez pas Dieu d'abord, vous ne pourrez pas aimer votre prochain, ni celui que vous haïssez. Don Angelo, dans la première page de cet écho de Marie, reine de la paix, écrit les lignes qui suivent, je tiens à vous les lire. C'est un message bouleversant. Beaucoup croient vivre avec Dieu du fait de leur extérieure profession de foi, comme ce que je fais depuis le début de mai. Ça ne veut pas dire que je vis avec Dieu, ça. C'est rien parler quand on a le don, le charisme. Ce qui compte, c'est de vivre vraiment avec Dieu. Donc, beaucoup croient vivre avec Dieu du fait de leur extérieure profession de foi et par une certaine pratique chrétienne, parce qu'ils soutiennent un profil de foi qui les place du côté de l'Église et les arrange aussi. Mais en réalité, comme les vierges folles, ils n'alimentent pas la flamme de la foi avec des œuvres d'amour de Dieu, avec des choix concrets de sa volonté. Pour eux, Dieu devient seulement un mot. Ils ont la bouche pleine de « Seigneur, Seigneur ». Mais il n'est pas le Seigneur de leur vie. Quelle tromperie de vivre avec un Dieu qui désire avec jalousie l'esprit qu'il a mis en vous, selon l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 5. Il faut aimer Dieu. On ne peut pas vivre avec les frères sans l'amour qui vient de Dieu. Il faut brûler d'amour. De fait, nous voyons combien la vie entre les hommes devient aujourd'hui invivable par la recherche excessive de soi-même, qui crée toujours plus de divisions, dressant les uns contre les autres. Des discours d'amour nous parviennent de toutes les tribunes, mais viennent souvent de déserts arides, car ni baignés ni nourris de la lymphe du véritable amour. Semble arriver les temps prévus par l'Évangile, où par le déferlement de l'iniquité, l'amour de beaucoup se refroidira. Et Don Angelo, c'est un prêtre, ajoute, « L'orgueilleux n'a pas l'amour de Dieu et n'aime personne car il s'affirme seulement lui-même. » Ainsi, l'homme sans Dieu juge, est, condamne, lorsqu'il suit ses sympathies et dit aimer, en réalité, c'est encore lui qu'il aime égoïstement. Écoutez, comme Marie nous le répète, avec grande profondeur et simplicité de langage, les mots de l'apôtre Saint Jean, pour que nous ne nous trompions pas. Voici le texte de Saint Jean dans la première épître au chapitre 4. L'amour est de Dieu et quiconque aime est engendré par Dieu et connaît Dieu. Et en ceci consiste l'amour, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Nous devons nous aimer les uns les autres, puisque lui nous a aimés le premier. C'est très beau ces textes. Et je lis dans le numéro suivant, juillet-août 1995, l'écho de Marie. Maintenant, le pape ouvre justement une porte sur ce qui a constitué la plus grande difficulté pour les autres églises chrétiennes, c'est-à-dire la primauté de l'évêque de Rome, dont la mémoire est marquée par certains souvenirs douloureux, pour lesquels, avec son prédécesseur Paul VI, il demande pardon. Il s'engage jusqu'à convertir même l'institution de la papauté. Sans mettre en discussion la substance de la primauté du successeur de Pierre, signe visible et garant de l'unité des croyants, du moment que cela peut constituer une difficulté pour la majeure partie des chrétiens, il est disposé à trouver une forme d'exercice de la primauté qui s'ouvre à une situation nouvelle, et demande aux autres églises d'étudier comment il peut devenir un meilleur instrument pour la communion. Et écoutez bien ça, le point fort est la communion dans la sainteté. Le point fort est la communion dans la sainteté, comme conséquence de l'unique baptême. Le pape qui parle, les martyrs orthodoxes, protestants, anglicans, catholiques, sont tous des témoins du Christ et représentent avec leur sainteté un pôle d'attraction vers l'unité. Si on peut mourir pour la foi dans les diverses églises, alors on peut retrouver l'unité de la foi qui exige de donner sa vie pour le Christ. Voici ce texte du pape admirable, publié par l'écho de Marie, reine de la paix, qui nous vient de Medjugorje. Je crois que Marie a beaucoup à nous rappeler, et c'est ce qu'elle fait à Medjugorje. Je crois qu'on doit intelligemment lire les meilleures publications à ce sujet. Je termine en vous signalant que c'est aujourd'hui la fête de ce saint dont on se moquait un peu quand j'étais jeune, saint Tarcisius. La seule source qui nous autorise, c'est quelques détails sur saint Tarcisius. C'est une inscription du pape saint Damase, qui est mort en l'an 384. Il dit, saint Tarcisius portait les mystères du Christ, c'est-à-dire l'Eucharistie, quand une main criminelle s'efforça de les profaner, et il préféra se laisser massacrer plutôt que de livrer aux chiens enragés le corps du Sauveur. Il portait, comme Marie a porté Jésus, il portait Jésus, il a été massacré. Et le développement du culte du Très-Saint-Sacrement a rendu Tarcisius très populaire dans les temps modernes. Et je crois que nous devons porter Jésus comme Marie, comme ce saint de ce jour, afin de le donner aux autres, car par Jésus, par la lecture des évangiles, par un amour débordant à son égard qui nous porte à recevoir quotidiennement son corps sacré, son pain de vie, le corps vivant de Jésus, nous pouvons arriver à vivre comme des saints, afin de transformer le monde, comme Marie l'a transformé, comme les saints le transforment, et comme surtout Jésus, au cœur de l'histoire, l'a transformé. Je crois que nous devons être de vrais chrétiens. C'est ce que Marie nous enseigne aujourd'hui, par la gloire qui lui a été accordée, par l'assomption de son corps pour l'éternité au ciel.